Je suis en train de chanson.
Non, des chansons. Non, non,
mais on a du temps.
Il y a du temps. Et puis c'est tout. Il y a d'autres. Ouais. Un sujet qui était dans l'ordre du jour pour nous aborder, c'est la question des intersexes.
Et oui, c'est vrai. Il en était question à deux tables rondes. Alors, une petite, dans une toute petite salle de 50 places. Alors, celui qui gère, en fait, qui est l'un des plus. Qui s'occupe en fait de la commission intersexe de la Rebuilda, c'est Tom Mazur, qui est un psychologue, qui est lui-même intersexe et qui est passé dans une émission que j'ai lue il y a longtemps de ça, qui doit dater de pas mal d'années, puisqu'il y a un décalage entre la personne que j'ai vue, qui est passée sur Arte. Et donc c'est lui qui dirigeait un petit peu cette session. Il y a eu pas mal de choses sur là aussi les hormones. Mais ça allait très vite. C'était pas donc là j'ai quasiment rien pu prendre comme note. Mais ce que j'ai surtout noté, c'est la partie éthique qui a été là, qui était faite dans la grande salle le matin, et donc où tout le monde, c'est-à-dire que le matin il y avait des sessions uniques, il n'y avait pas de sessions parallèles, donc tout le monde assistait. Et donc là il y a eu toute une matinée sur ce sujet-là, avec toute une partie éthique. Entre autres sur la plupart vont dans le sens d'un moratoire sur les interventions génitales précoces, et donc sont maintenant très ont posé vraiment tous les points en disant ce qui était légitime, pas légitime, pourquoi il fallait, s'il fallait arrêter, pourquoi, qu'est-ce qu'on pense, même si la chirurgie allait dans de bons résultats, de meilleurs résultats quand c'était fait précocement, en même temps il fallait tenir compte de ce qu'avaient dit les gens, de ce que disaient les associations, et qu'il fallait un peu voir ce qu'il en était, comment pouvait-on aider les parents à élever leur enfant dans une condition intersexe, etc. Donc il y avait quand même des choses que je trouve positives qui vont dans un sens où on a commencé à écouter ce que disaient les gens. Depuis des années, puisque c'est la première qui a commencé, c'est chez Alison aux États-Unis, et donc je pense que Vincent ne dirait pas grand-chose de différent là-dessus, peut-être, s'il avait assisté, quoi.
Vincent Viollo, qui est le porte-parole européen de l'OII, l'Organisation Internationale des Intersexes. Moi, je voulais savoir si, parce que je trouve ça vachement bien que les intersexes soient inclus à l'âge vital, je voulais savoir si c'était la première année.
Non, c'est pas la première année, mais c'est la première année vraiment où c'est à ce point-là. D'abord parce que à Gand en 2003, il s'était posé la question de est-ce que les intersexes ont leur place à l'âge bidda, parce que c'est un problème très différent sur le plan biologique de la transsexualité. Il n'y a que sur une partie de la chirurgie, une partie seulement, qu'il y a des points communs. Les traitements hormonaux peuvent être très différents aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a tous les cas mosaïques qui sont extrêmement complexes, qu'il y a en général d'autres malformations entre guillemets organiques qui ne sont pas seulement le sexe, mais il peut y avoir par exemple des problèmes au niveau des reins, des problèmes sur d'autres organes, et qu'il faut absolument prendre en compte. Mais maintenant, de réduire effectivement un clitoris trop long ou un pénis trop court ou ce genre de choses est absolument remis en cause sur ce plan-là. Et il est bien noté que on ne sait pas ce que va devenir l'enfant d'un point de vue de son cerveau, d'un point de vue de son identité, pas, quel que soit l'âge et le sexe.
Oui. Je voulais, un peu dans le même sens que la question de Vincent, tu disais tout à l'heure que les associations de personnes intersexes étaient consultées. Est-ce que les associations trans sont consultées à l'âge vital maintenant?
Alors je ne sais pas si elles ont été consultées là, dans ce cas-là. Oui. Hein. Elles ont été entendues en tout cas auprès des professionnels de santé.
D'accord.
Maintenant, est-ce que les associations
trans,
il y en a, je pense, hein, parce que quand on voit que des... si tu veux, il y a des gens qui sont d'un haut niveau social, qui sont à l'âge bidin, qui sont trans, qui sont professionnels de santé ou de droit dans ces domaines-là. On voit par exemple James Green qui est écrivain, qui n'est pas professionnel de santé mais il est quand même à l'âge bidda, il s'occupe de certains éléments à l'âge bidda, il y a Stéphane Whittle au niveau du droit, il y a Mercy Bower au niveau de la chirurgie, qui est chirurgienne trans elle-même, il y en a d'autres que j'oublie certainement.
Il y a aussi Marc Alcano aussi, docteur en sociologie qui est membre de la BIDA et qui est une des organisatrices d'ailleurs de ce congrès avec l'OMT et l'Observatorio National des Générés, l'OMIG.
Tous ces organisateurs viennent du même pays, sont tous de la même nationalité.
Il y a des Anglais,
puisque c'est international, mais... Oui, évidemment. Oui, non, mais en fait, non.
Les Nations Unies, c'est le lendemain de France qui est membre. Cette année, je n'ai pas remis, j'avais oublié mon diplôme, et puis c'était quand même 90 euros sur place. Donc, j'ai cette année, je crois. Alors, le Caritig. Donc il y a une association qui est membre
Une association française.
Oui, un membre organisateur.
Enfin bon, ça fait partie des gens qui sont dedans, quoi.
Donc à propos d'intersexe, il y a bien une commission intersexe, un comité intersexe assez étoffé au sein de la BIDA.
Qui est dirigé par Tom Mazur.
Sur le site de la BIDA.
Qui est assez détaillé.
Et l'autre nouveauté que j'aime, dont je reviens parler, c'est aussi qu'ils ont parlé aussi des autistes transsexuels.
Asperger et transsexualisme et autres.
Donc c'est quand même une nouveauté, c'est la première fois que j'entends parler de cette problématique au sein de la BIDA.
Bah, ce qui ne m'étonne pas, c'est que j'ai toujours dit que toute problématique psy, alors psy, entre guillemets, l'autisme est classé aussi dans les maladies mentales, bien que ce n'est pas une maladie mentale, c'est reconnu maintenant comme un handicap neurologique, mais toute problématique peut cohabiter avec une transidentité, je ne vois pas en quoi c'est incompatible, ça me paraît une évidence même. Donc il y ait des autistes trans, je ne suis pas étonné.
Alors, on va peut-être pas non plus monopoliser sur cette question non plus toute la soirée. L'émission qui nous suit, qui est comment
représentation. On n'est pas là ce soir, donc Non, c'était pas prévu, mais bon, nous payons pas pour une fois qu'on a une petite demi-heure de plus.
Oui, qu'est-ce qu'on fait? On continue, parce que là on a à peu près épuisé l'ordre du jour.
Là j'ai une question, je ne sais pas si ça a été abordé. Ou pas, enfin le but, la destination pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la HBIDA comme moi, le but, la destination de ces rencontres en fait.
Alors c'est une association de professionnels sur les questions trans,
intersexes. Ben, en fait ils se réunissent,
donc, c'est elle est destinée à tout professionnel dans ces questions là. Les représentants trans qui veulent y adhérer peuvent y adhérer, c'est visiblement pas un obstacle puisqu'il y en a plusieurs, qui ne sont pas des professionnels de santé.
Mais le but c'est que tout le monde soit d'accord sur le discours.
Non, c'est qu'il y a du débat, c'est un échange, ce sont des échanges scientifiques. C'est-à-dire que c'est les recherches dans le monde sur ces questions-là, c'est les progrès médicaux, c'est qu'est-ce qu'on fait, on a essayé ça donne ça, il y a un débat, il y a des questions posées, quand les chirurgiens exposent leurs techniques, il y a des questions, moi j'ai vu ça, c'était intéressant. De voir les chirurgiens échanger entre eux sur des points techniques très précis.
Marlène. Donc c'est une association qui a un caractère donc très formateur en fait, c'est-à-dire ce sont des chirurgiens qui se mettent à jour par le biais des échanges que
C'est une formation professionnelle pour eux, en même temps elle fait partie de leur formation professionnelle.
Voilà. C'est par ailleurs bon, cette association vient de la fameuse educational Ericsson Foundation, c'est-à-dire l'ancienne EEF.
La fondation de Lourdes Ericsson qui a financé, en fait, tout historiquement le mouvement. C'est-à-dire c'est grâce à ce type immensément riche qui a créé, qui a financé, qui a été trans, qui a financé finalement les cliniques trans aux États-Unis, les premières cliniques universitaires, les associations comme justement celle là que tu disais Marlène, et puis la HBIDA entre autres. Hein.
D'ailleurs, Louis Erickson a financé les 5 premiers symposiums de la HBIDA jusqu'en 1979, c'est-à-dire jusqu'à le dépôt des statuts à Galveston, à l'université de Galveston au Texas. C'est Louis Erickson qui a financé tous les congrès, c'est-à-dire jusqu'à, je pense, pratiquement celui de Dubrovnik, un truc comme ça.
De temps.
Il avait quelques problèmes avec la justice américaine parce qu'il était malheureusement une consommée de drogue. Oui, non, mais c'est pas, je m'entends, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu agir peut-être à sa guise du fait qu'il était confiné au Mexique à la fin de ses jours.
Pour voir comment on rencontre quelque chose d'autre que les trans précaires.
Même en France, il y en a quelques-uns qui ont de l'argent, mais ce ne sont pas des militants. Je ne sais pas ce qu'ils en font. Il y en a même qui s'en font chier dans leur coin, mais ça ne reviendrait pas à l'idée de peut-être dire, et si je faisais une fondation, peut-être.
Pour aider les copains et les copines à se faire opérer.
Par exemple, ou tout simplement, créer de la recherche, ou créer, tu vois, pour dire, du coup, au lieu de se mentir dans son coin et se faire chier, elle aurait des contacts, elle aurait du monde à voir, quoi.
Aux États-Unis, j'ai remarqué, parce que ça, quand j'ai, parce que j'ai commencé à faire un compte-rendu sur ce symposium, donc j'ai un peu regardé à travers les noms, qui étaient ces gens, et tout, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de trans, et qu'il y avait un excellent niveau aux États-Unis. Même des médecins que je ne soupçonnais même pas existence. C'est-à-dire, à travers des liens, je rentre un nom, ils sont dirigeants, elles sont, oui, ils sont dirigeants d'une association, et en temps, c'est toute une série de médecins qui sont spécialisés, par exemple, dans l'éducation vocale, d'autres qui sont spécialisés en endocrinologie, et ainsi de suite. Il n'y a pas dans les États-Unis quand même de trans de bon niveau qui s'implique beaucoup, et en Angleterre aussi, en Angleterre quelques-uns aussi.
Ben, la France est un peu une exception, hein. On a du mal à avoir des trans d'abord qui arrivent à un très bon un niveau professionnel, par exemple, qui arrivent à avoir par exemple des diplômes en médecine et être compétents dans un domaine et qui ont envie de s'investir.
Pourquoi tu me regardes?
Mais on ne te regarde pas particulièrement, ou qui arrivent tout simplement à être avocat, par exemple, et qui prendraient en charge d'une façon peut-être un petit peu plus bouleversante. Parce que je dois avouer que les avocats ne bougent pas beaucoup le cul pour
venir
sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui prennent le fric, mais bon, ils assurent. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne se battent pas pour qu'il n'y ait pas d'expertise, ils se contentent de suivre les procédures, ils font rien pour que ça avance. Il faut lire honnêtement.